Studio Tamani, voici les informations en français.
18h ici dans ce studio, même heure à Nsongo. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique l'attaque contre une délégation présidentielle à Nara. L'évacuation du dépôt d'ordures de Lafia Bougou en commune 4 du district de Bamako crée des tensions. Des échauffourées ont éclaté ce matin entre les charitiers et les habitants du quartier. Dans la rubrique Zoom sur, notre chroniqueuse nous parle du quotidien entre apprentis Sotrama et usagers. Le développement dans un instant avec Adama Amadou Haïdara, la mise en onde Mamadi Keïta. Insécurité au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique l'attaque de la semaine dernière à Nara. L'armée malienne aussi annonce avoir interpellé 12 terroristes. Le point avec Ali Sissi.
Les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans déclarent être responsables de l'embuscade qui a coûté la vie à 4 personnes à Nara la semaine dernière. Parmi les victimes figure l'adjudant Omar Traoré, chef de cabinet du président de la transition. Le groupe djihadiste dit aussi détenir 2 autres personnes en otage. De son côté, l'armée malienne annonce avoir interpellé 12 terroristes et saisi des armes et téléphones satellitaires entre autres. C'était au cours de la même semaine, lors d'une reconnaissance offensive dans plusieurs secteurs de la région de Ménaka au nord du Mali. La situation sécuritaire reste calme à TBC Laman, Inagar, Chimane et Tim Fadimata, précise l'état-major général des armées maliennes dans son communiqué. Toujours au nord du pays, à Bara, dans le cercle d'Ansongo, des hommes armés non identifiés ont tué un homme et son fils dimanche passé. Des sources locales indiquent que les assaillants ont également dépouillé les habitants de la localité de Lerbian.
À Missabougou, quartier de Bamako, les esprits des populations restent encore marqués par le crash de l'hélicoptère militaire survenu ce week-end. Écoutons leur réaction 2 jours après le drame. Ils sont au micro de Draman Meika.
Depuis le jour du crash, nous sommes angoissés ici à Missabougou. Nous étions assis quand nous avons vu l'hélicoptère se crasher. Il survolait très bas les quartiers.
Nous ne pouvons que prier pour le repos éternel des soldats décédés suite à ces crashs et que Dieu aide ceux qui sont au front.
Disons que c'est un fait de Dieu, mais nous restons souciés ici. Toi-même, tu vois les dégâts sur place.
À mon avis, le pilote a fait de son mieux, car il a évité les zones habitées. Sinon, ça allait être plus grave.
Que Dieu nous préserve, sinon nous sommes toujours inquiets.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Tension ce lundi 24 avril 2023 entre les charitiers et la population de Lafia Bougou. Cet incident fait suite aux travaux d'évacuation du dépôt d'ordures appelé Kilimandjaro. Toutes les deux parties se rejettent la faute. Si la population estime que ce dépotoir doit être évacué avant d'en rajouter d'autres déchets, les charitiers dénoncent la lenteur dans les travaux et disent ne pas avoir d'autres alternatives. Notre reporter Halima Yattara était sur place.
Des scènes de jeux de pierre entre habitants de Lafia Bougou en liesse et les charretiers ont lieu ce lundi matin à Lafia Bougou. Il a fallu une intervention policière. Nous souffrons tous des maladies respiratoires à cause des odeurs nauséabondes que dégagent les ordures. Ces mots sont des habitants de Lafia Bougou. Les charretiers de leur côté estiment qu'ils ne font que leur travail.
On souffre vraiment, on en a marre. Les charretiers disent qu'ils y gagnent leur vie.
Il faut que l'autorité se mette à sa place, à
ceux qui ramassent les ordures disent qu'ils ne vont plus le faire si ça augmente.
Mon enfant est à l'hôpital. La même chose pour moi.
Nous qui amenons les ordures, nous avons des difficultés. Il y a plus de 4 communes qui déversent leurs ordures.
Face à cette situation, les autorités affirment que toutes les dispositions seront prises pour pallier ce problème. Kadjali Fadiga, chef de division assainissement à la direction de services urbains de voirie et d'assainissement.
Il a été décidé que chaque samedi et dimanche, on puisse laisser les charretiers et les pousses déverser le flux quotidien. Bon, malheureusement, la jeunesse s'est opposée à ça et c'est ce qui nous a conduit à ça aujourd'hui. Demande à la population d'être patient.
Rappelons que plusieurs camions et des bulldozers ont été mobilisés par le mouvement Ambico pour dégager ce grand dépôt d'ordures.
Du sport dans ce journal, le tournoi international d'handball dénommé Fédération Trophy Bamako 2023 en filles a pris fin ce week-end. Cette compétition qui a duré 4 jours a connu le sacre des équipes guinéennes des U20 et U17. En football, les cadets maliens poursuivent leur préparation au Maroc en vue de la CAN U17. Khalifa Guetta.
Les handballeuses guinéennes ont remporté la finale du tournoi Zone 2 devant leur homologue du Sénégal sur le score de 40-19. Par contre, il a fallu attendre les dernières minutes pour que les cadettes guinéennes plient leur match toujours face au Sénégal 23-21. Les cadettes maliennes ont été 7e dans leur catégorie. Les juniors, quant à elles, ont occupé la 5e place. 8 pays ont pris part à ce tournoi, à savoir le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone et le Mali. Par ailleurs, en football, les U17 du Mali livrent ce soir à 17h30 leur second match amical contre leur homologue du Maroc. Ils avaient gagné la manche aller sur le score de 2-1. La phase finale de la CAN U17 débute samedi prochain. Le Mali est logé dans le groupe C avec le Cameroun, le Soudan du Sud et le Burkina Faso.
La Sotrama est l'un des vieux moyens de transport en commun au Mali. Elle transporte des personnes et leurs biens entre les quartiers de la capitale. Toutefois, le comportement des apprentis de ces véhicules et de certains passagers est dénoncé par d'autres. Maria Meiga nous en parle dans la chronique Zoom sur.
Il est 17h au sein de Wurukuru, une gare des Sotrama à Bamako. Nous voici dans une Sotrama déjà remplie de passagers, mais l'apprenti est toujours à la recherche d'autres personnes. Soudain, une femme avec ses 3 enfants arrive. Malgré le surplus, l'apprenti demande aux usagers de faire de la place pour la dame et ses enfants. Ayautori, poussez-vous en bambara, demande l'apprenti. Tenez-vous bien, elle a quand même eu quelque part où s'asseoir. Un vieillard prend la main d'un enfant et le fait asseoir sur ses pieds. L'autre est resté dans l'allée adossé à sa mère en train de sucer un bonbon. Le plus petit est resté sur les jambes de sa maman. À présent, le véhicule quitte la gare. Direction Daoudabougou. La Sotrama file à vive allure jusqu'à la destination finale. Sur le chemin de retour, le trajet est tout autre. Là, la Sotrama roule beaucoup moins vite. Souvent, nous devons prendre notre mal en patience. L'apprenti disparaît dans la foule à la recherche d'éventuels clients. C'est le calvaire que vivent les usagers des Sotrama. La vitesse est en fonction du nombre de clients à bord. C'est pourquoi, mieux vaut emprunter une Sotrama remplie qu'une Sotrama à moitié vide.
Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux affirme que des entreprises suisses exportent des carburants toxiques en Afrique. Qu'en est-il de la véracité de cette information? La réponse dans la rubrique Vérifions du jour avec Fatmata Koudjo.
Cette vidéo n'est pas nouvelle. Elle date de 2016. C'est un extrait du journal de la chaîne d'information française. La séquence revient sur la publication par l'ONG suisse Public Eye des rapports intitulés Dirty Diesel. Cette enquête publique avait révélé que des sociétés de négoce suisses exportaient du carburant toxique dans certains pays d'Afrique, dont le Mali. Selon le rapport, la teneur en soufre des carburants était jusqu'à 378 fois supérieure à la teneur autorisée en Europe. Plusieurs sociétés de vente de carburant étaient citées dans ces rapports, dont Oryx. L'Office national des produits pétroliers, ONAP, avait démenti cette information. Le 16 septembre 2016, son directeur Zoumana Mori Koulibaly avait indiqué qu'aucun carburant frélaté n'était importé dans le pays depuis 8 mois. Il avait aussi assuré que tous les hydrocarbures importés au Mali étaient inspectés par une société agréée internationale.
Merci Fatoumata Akoudjo et nous accueillons à présent Mariam Koulibaly pour l'introduction du Grand Dialogue de ce soir. Bonsoir Mariam, c'est quoi le thème du Grand Dialogue aujourd'hui?
Bonsoir Adama. Peut-on contrôler le flux migratoire au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Sambou Dambélé, coordinateur du projet Promissa, Amadou Koulibaly de l'Association malienne des expulsés et Founeke Sissoko, expert en migration.
Merci Mariam, bon débat. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Toutes ces informations, vous pouvez les réécouter à tout moment sur notre site web au www.studiotamani.org. Vous pouvez aussi appeler gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez connectés dans un instant, le magazine. les procédures judiciaires ne sont pas maîtrisées par de nombreux Maliens aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Comment porter plainte à la justice au Mali? Où doit-on introduire une plainte? Que faut-il faire quand on reçoit une convocation? Des réponses dans ce numéro du magazine Malikoura, réalisé et présenté par Moussa Malé Sissoko.
Le magistrat Moussa Guindo explique qu'une plainte est déposée lorsqu'une violation du code pénal est constatée. Il précise aussi que tout citoyen qui s'estime victime d'un fait infractionnel peut saisir la police, la gendarmerie ou le procureur de la République pour introduire une plainte. Moussa Guindo, magistrat en détachement.
Quand vous déposez plainte, vous venez vous plaindre de quelque chose. C'est purement administratif. On fait un soir transmis. C'est quoi le soir transmis? C'est juste une lettre qu'on adresse aux unités d'enquête. De prendre votre plainte en compte. Dès réception d'une plainte, vous demandez d'abord l'unité que vous convoque. Ça vient de quel tribunal? Si vous avez les moyens, vous avez un avocat, informez-vous votre avocat. Si vous n'avez pas d'avocat, il n'y a pas de plan pour vous demander de chercher. Il faut répondre à la convocation. Parce que dès que vous ne faites pas ça, vous violez la loi aussi. L'infraction pénale, elle est personnelle.
À en croire le magistrat, la durée maximum d'un garde à vue est de 48 heures. Toutefois, une prorogation à 72 heures peut être faite par le procureur pour des besoins d'enquête. Moussa Guindo, magistrat en détachement.
Bon, dès que vous comparaissez devant le policier enquêteur ou le gendarme enquêteur, au nom du procureur, vous faites savoir que vous êtes poursuivi pour telle infraction. Et il va vous écouter sur PV. Et là aussi, vous avez tout le droit. Dès qu'on viole la loi, on a aussi des droits. Et 72 heures est finie. Soit on vous libère définitivement sans poursuite, soit on fait transmettre le dossier au procureur. Et la loi dit, quand vous placez c'est quelqu'un sur une fraction de vol ou bien d'escroquerie et ça ne va pas dépasser pas 3 mois. Dépose le mandat où on vous place. On vous dit immédiatement que votre audience est prévue telle date.
Ces procédures sont ignorées par de nombreux Maliens. À Bamako, Ségou ou Kadiolo, les perceptions des citoyens sur une plainte diffèrent.
Pour formuler une plainte, je ne sais pas comment remplir les dossiers.
Quand vous recevez une convocation d'une tierce personne, c'est chez nous à Kadiolo, c'est d'office une destruction des relations sociales entre la lignée de celui qui a reçu la convocation et celle de celui qui vous a convoqué.
Mais ici, le problème est que c'est le social qui détruit la suite de la plainte.
Généralement, la justice malienne est là dans les traitements des dossiers.
Parmi les organisations qui accompagnent les citoyens pour une meilleure connaissance de leurs droits et devoirs figure la Convention nationale des juristes du Mali. Ismaïla Yoro Diko, président de l'organisation.
Et par jour, même ces derniers temps, c'est une vingtaine, trentaine d'appels de Maliens qui sont confrontés à des questions juridiques. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, quand le citoyen vient, on le reçoit. Il explique son problème. Quand on finit de l'écouter, on l'oriente. Tu devais aller voir le procureur, ou bien le président du tribunal, ou bien c'est huissier commissaire, ou bien non, tu devais aller voir un notaire par rapport à la situation. Nous, on ne discute pas le problème d'honoraire. On ne t'indique même pas un avocat. Maintenant, si ta procédure arrive au niveau de la justice, on suit.
La tribune jeune pour la promotion du droit Trigide Mali fait aussi partie des organisations qui militent pour la promotion et la protection des droits humains. Zamba Ousmane Doumbia, responsable de la clinique juridique de Trigide à Bamako.
D'abord, nous avons mis en place des cliniques juridiques Bamako, Mopti, Gao et Sikasso, des abus ou des violations des droits humains en termes de conseils juridiques, de rédaction de plaintes, d'orientation et d'accompagnement devant les autorités judiciaires. Nous procurons à certains d'entre elles des avocats afin de les aider dans le cadre de leur procédure devant la justice, surtout celles qui n'ont pas les moyens de se constituer un avocat.
Comment faire en sorte que chacun puisse trouver son compte au niveau de la justice malienne? Des juristes estiment que la santé de l'appareil judiciaire malien dépend de l'accès des populations à celle-ci. Cela requiert plusieurs résolutions. Selon les juristes Ismaïla Yoro Diko, il s'agit de la vulgarisation des procédures judiciaires et de l'indépendance des juges dans le traitement impartial des questions judiciaires, conclut-il.